10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue puisque c'est la dernière ligne droite à quelques jours, évidemment, du scrutin de ce second tour. Nous allons tout vous dire parce que on va revenir d'abord sur le débat Macron-Le Pen. Qu'est-ce qu'on retiendra finalement de cette séquence? Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, il se voit déjà Premier ministre, les amis. Parce qu'il appelle l'Union Populaire, d'abord, à le faire, à le propulser Premier ministre. On en parlera. Est-ce possible, mécaniquement, hein, vous le savez? Est-ce qu'il a la chance, cette chance de se retrouver au gouvernement? Ensuite, on finira avec ce troisième sujet, l'enjeu de ce second tour. Abstention, vote, vote utile, vote blanc, bref, les grands enjeux de ce second tour, on en parlera ici même dans Les Informés. Et vous le savez, Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression, plus que jamais, bien sûr.
Beurre FM, 10h, 11h, Les Informés avec Adil Farkan.
Alors, on va tout de suite partir avec le face-à-face. C'est parti.
Les Informés, le face-à-face.
Et on a le... Vraiment, moi je suis honoré et un vrai plaisir de t'accueillir, tiens, je tutoie, et de vous accueillir Karim Zeribi. Comment ça va? Oui, on se connaît, mais bon, là, c'est le vouvoiement. Ouais. Comment ça va, mon cher Karim Zeribi?
Je suis très heureux, merci.
Éditorialiste, évidemment, je vous présente même plus, hein, vous êtes un visage médiatique hein, auprès de à la fois Cyril Hanouna, mais pas que, aussi sur CNews. Comment ça va?
Ça va impeccable, écoute, grâce à Dieu, tout va bien.
En tout cas, plaisir de vous recevoir.
Mais merci de ton invitation, je suis très heureux. D'être partagé. À tes côtés, aux côtés d'amis qui nous accompagnent.
Partagé. À vos côtés, eh bien, Jean-Claude Filsicaya, le spécialiste de l'histoire, chercheur au sein de l'IPSE. Comment ça va, mon cher Jean-Claude?
Ça va, très bien.
Tout
merci
va bien.
Vous.
Ça va.
Bonjour
bien.
À tout le monde.
Plutôt bien.
Heureux d'être là aussi.
De l'autre côté, du, évidemment, c'est Gamal Abina, acteur, commentateur de la vie politique, mais pas que. Comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Porte-parole aussi du mouvement.
UNDC,
absolument. Tout va bien?
Impeccable. Vu le débat d'hier soir, ça va bien.
Avant-hier soir. Messieurs, tout de suite, nous allons démarrer avec ce premier sujet. J'aimerais qu'on revienne sur cette séquence de ce débat. Débat, donc, évidemment, que vous avez vécu certainement, qu'on a regardé tous, hein, 15 millions, un peu moins que, ça a fait un peu moins d'audience que les précédents débats présidentiels.
16 Est-ce millions que, et 2 000 là-dedans.
Exactement. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Karim Zeribi?
Bah, je pense déjà que la qualité du débat, donc, est moins intense que ce qu'on a connu, hein. Et même si on remontait encore avant, alors tu vas me dire on va très loin, mais en 88 on avait 30 millions de Français qui étaient devant le poste.
C'était un rendez-vous.
Donc c'était un rendez-vous. Donc moi je trouve que cette campagne elle a pas été bonne, à la fois sur la forme et sur le fond. Sur le fond elle a été catastrophique avec les sujets que l'on connaît qui ont été des obsessions et qui ont évacué les vrais débats sur les enjeux du quotidien des Français et puis la perspective aussi d'entrevoir l'avenir. Faire une campagne présidentielle sur l'islam et les musulmans, on peut dire que c'est une campagne qui est complètement ratée, donc ils sont passés à côté de l'essentiel. Et puis après, cette finale, c'est vrai que, bon, on va y revenir, Macron est compétent, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est quelqu'un qui est brillant. Mais
Marine Le Pen, alors, elle s'est pas manquée? Qu'est-ce qui s'est passé pour Marine Le Pen? On a tout entendu sur
pour
elle.
Pour faire un bon match, il faut être deux.
Ouais.
Donc il n'y avait pas l'adversaire. Je veux dire, on avait l'impression que c'était une équipe de Champions League face à une équipe de moyen milieu de tableau de Ligue 1.
Oh, clochette! Oh, il a droit à sa première clochette, Karim Zeribi, hein, effectivement.
Ouais, donc je trouve qu'elle a... Elle a pas préparé ce débat, c'est pas possible.
Ah, vous pensez qu'elle a pas préparé?
Ou alors elle travaille pas. Il y a une méconnaissance des dossiers sur le fond.
Oui,
il y a une forme de, je dirais, d'approximation sur tous les sujets. C'est quand même une candidature à la présidentielle. Je veux dire, c'est pas une départementale. Donc on brigue pas donc une commune d'un petit village là. Donc, et pour autant, je l'ai pas senti du tout. Donc dedans, en connaissance de ces dossiers, on attaque sur le pouvoir d'achat. Elle est à côté du sujet, il lui donne un peu la leçon. Alors après, on dit il est arrogant, il est compétent. Il est d'abord compétent. Après, effectivement, il peut faire preuve d'arrogance, mais c'est peut-être parce qu'en face, le niveau était très faible. Donc non, je trouve que encore une fois, une mauvaise campagne globalement, premier et deuxième tour, et une mauvaise finale.
Elle n'a pas convaincu.
Ah, pas du tout.
Jean-Claude Filsicaya, qu'est-ce que vous partagez?
Oui, je suis en phase avec ce que vient de dire Karim, mais il faut rappeler aussi le contexte latent. On est quand même dans un état puissant de dérèglement démocratique, politique. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est quand même pas seulement la campagne qui a été jalonnée de d'outrances racistes, islamophobes et autres. Donc, on peut dire que ça a permis à une personnalité comme Zemmour de parler de grands remplacements sans être convoqué par un procureur avec tout ce qu'il a.
Vous nous aviez alerté ici, je me souviens ici même. Hein.
Voilà.
Vous nous aviez alerté
sur le plan du droit. Sur le plan du droit, il n'était même pas sur une ligne de crête. Et là, ça a été rappelé hier à ses dépêchés d'être d'extrême droite, parce que en face, elle voulait.
Ah, elle nous a surtout rappelé que voilà, effectivement, voilà, qu'elle incarnait bien l'extrême droite hier. L'extrême droite, ça, on l'a bien
l'extrême
compris.
L'extrême droite, c'est un projet, une histoire, un présent, des violences physiques, des personnes, parce que arabes et musulmanes dans la scène, des noirs et autres. Tous ceux qui sont vus comme un caillou dans la chaussure ou des Français à part. Et qu'est-ce que c'est que ce concept de dire à toutes les phrases français, français, français ? Qu'est-ce que les étrangers. C'est un délit d'être étranger ? Donc, ça rappelle quoi ? Ça convoque quoi ? Ça convoque le pire des idées coloniales, le pire des idées entre 39 et 45. Voilà, on sent très bien.
C'est bien de le rappeler. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Mais il faut le dire aussi à nos auditeurs.
Le grand remplacement, on sait de qui ils veulent parler, que ce soit Marine Le Pen, Maréchal La Revoilà, et pareil pour Zemmour. Donc, l'arrogance, certes, là, c'est vrai qu'elle était surjouée, elle était ostentatoire. Mais leur arrogance depuis 50 ans, la violence politique de l'extrême droite qui est en acte. Bon, on peut dire que c'est vrai qu'il est arrogant par ailleurs et on lui a assez reproché. Mais hier soir, c'est drôle, j'ai du mal à lui reprocher cette arrogance et cette forme de mépris.
Ah, parce que moi, je vois par exemple sur les réseaux sociaux, il s'est beaucoup commenté, mépris, arrogance, agressif même.
Agressif. Bon. Bah alors, si on veut parler d'agressivité. Le programme depuis 50 ans.
Misogynie, j'ai vu même d'ailleurs, puisqu'il lui coupait souvent la parole.
De mépris, le programme du Front National, le lire. Si on veut parler de condescendance, regardons le programme. C'est-à-dire qu'on veut absolument qu'un parti antidémocratique, qui a pignon sur rue, qui a pignon sur crâne, qui a pignon maintenant sur tous les médias, faut qu'on soit respectueux, non méprisant, non arrogant, alors que tout ça est contenu depuis des décennies. Certes, il aurait pu faire autrement. Il a choisi de le faire ainsi, mais il faut se rappeler qui est l'extrême droite. C'est très bien d'ailleurs qu'il l'ait appelé Madame Le Pen. Ça charrie toute la dynastie Front National.
C'est vrai qu'il n'a pas arrêté de le dire. Gamal Abina.
Je vais pas contredire ce qui est dit là, mais je vais pousser un petit peu le bouchon.
Non, mais on va essayer d'apporter un décryptage.
Oui, absolument. La première question que vous avez posée tout à l'heure, c'était pourquoi 15 millions ? Parce que le premier choc, c'était en 2002, il y a 20 ans. Oui. Le second choc, c'était il y a 5 ans. 21 avril. Bah, absolument. C'est bon. On est dedans. Ouais. Donc c'était un choc généralisé, on trouvait ça incroyable. Le second choc, c'était il y a 5 ans, donc, où elle arrive pour la première fois, elle, face à un Macron qui est tout neuf. Donc évidemment, le neuf Macron, le jeune candidat qui est le beau gosse de service, un petit peu le golden boy américain face à Le Pen, la vieille garde du Front National, effectivement que ça intéressait les gens au début et ça les a moins intéressés. C'est normal parce qu'il y a bis repetita qui est un peu gênant. Maintenant, il faut comprendre une chose.
Oui.
L'extrême droite, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et caractériser l'extrême droite. J'ai vu une émission chez Hanouna, enfin un extrait, je ne regarde pas Hanouna, mais j'ai vu un extrait entre elle, je parle de Marion Maréchal Le Pen, et sa contradictrice qui était très faiblarde, on voit le résultat aux élections, Valérie Pécresse, qui n'a pas su caractériser ce que veut dire extrême droite. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un débat il y a 11 ans face à Marine Le Pen que j'ai atomisé, parce qu'elle est très faible intellectuellement. Il faut savoir que madame, qui est nulle en économie, a fait un bac B à Saint-Cloud. C'est ça son parcours. Il faut connaître le parcours des gens. Donc quand on fait un bac B, je traduis économie pour ceux qui sont jeunes et ne savent pas, ça veut dire qu'on a au moins des compétences économiques qu'elle n'a manifestement pas, parce qu'elle l'a eu au rattrapage. Voilà, ça c'est comme ça. C'est pas une winner, c'est une loser. Un Macron, par contre, il a un parcours académique qui est beaucoup plus exceptionnel. Donc lorsqu'il donne le sentiment, beaucoup de commentateurs ont dit que c'était un débat de quelqu'un de suffisant face à quelqu'un d'insuffisant. J'ai envie de dire que c'est un débat de quelqu'un de compétent face à une incompétence crasse. Et lorsque ce débat a lieu, il a en face de lui une femme qui ne peut pas s'empêcher, in fine, d'attaquer l'immigration. 50 ans, c'est bien Félix de le rappeler, de rappeler 50 ans de haine totale vers l'immigration. Qu'est-ce que le Front National ? Je suis obligé de faire un rappel rapide, mais c'est nécessaire. Le Front National s'est fondé comme l'OAS à l'époque, s'est fondé contre l'OAS pour les Algériens, organisation indépendantiste algérienne, il y a eu l'OAS, une réaction. Et après, il a fait le Front National qui s'est fondé 10 ans après la perte de l'Algérie contre le FLN, Front de Libération Nationale. On retire Libération, enfin Front National. Donc tout ça, c'est une logique colonialiste, raciste. C'est les anciens pétainistes, les anciens néo-nazis. C'est ça, le Front National. Et quand vous avez quelqu'un du Front National, j'ai eu donc ce débat avec Le Pen il y a 10 ans, il y a eu quelques années encore un débat contre Soral, que j'étais voir à la main d'or pour lui faire comprendre qu'il faut arrêter cette espèce de qualification de pousser les jeunes de banlieue à aller voter Le Pen. Eh bien, vous avez immédiatement, à la suite de ce débat, des menaces de mort, des insultes, des attaques. C'est des cascades. J'ai fait plein de débats politiques avec des personnalités importantes. C'est uniquement le Front National, pourtant je ne fais pas de cadeau aux autres, qui vous attaque physiquement.
Karim Zeribi, est-ce que finalement, ce débat a permis à Emmanuel Macron de renverser la vapeur? Parce que certains commentateurs disent que finalement, il n'y a pas de victoire écrasante du président sortant, notamment, et que Marine Le Pen a été plutôt dans l'empathie, alors qu'Emmanuel Macron était plutôt professoral.
Non, mais je pense que c'est la mise en exergue d'une incompétence face à quelqu'un qui connaissait ses dossiers. Je pense que pour présider aux destinées du pays, ça devrait suffire pour les électeurs et les citoyens que nous sommes quand même. Je veux dire, est-ce qu'on veut quelqu'un d'incompétent, qui est dans l'approximation, qui est dans l'outrance, dans la posture nauséabonde, dans une vision qui est anti-républicaine et anti-laïque, parce qu'il faut le dire. Donc la vision de Marine Le Pen est une vision qui fait mal au principe de laïcité et au principe de la République. Donc du coup, ça n'est plus la France dans ses fondamentaux tels qu'on la connaît. Or, Emmanuel Macron, il reste campé malgré tous les reproches qu'on peut faire à son action. On peut critiquer son bilan, on peut aussi critiquer la forme concernant le bonhomme, il n'y a pas de problème. Et même, à la limite, ce qu'il veut faire sur la réforme des retraites, ou sur la manière dont tout ça est critiquable. Ça veut dire faire de la politique, critiquer en contenu. Mais en réalité, c'est pas quelqu'un qui est un danger pour la République, au sens où on peut l'entendre du côté de l'extrême droite. L'extrême droite,
il faut qu'il l'entende. Message est très clair. Il faut qu'on l'entende, mais surtout, j'ai envie de vous dire, est-ce que nos auditeurs doivent entendre que ce n'est pas un parti comme les autres?
Bien sûr. C'est un parti qu'on a voulu banaliser et qui est banalisé depuis de nombreuses années. Mais en réalité, le rôle des citoyens que nous sommes, si on est des citoyens un peu éclairés, c'est d'aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur des programmes. Voilà, donc il ne faut pas qu'on regarde ça en surface de manière superficielle. Avant que tu lances la pub, c'est anti-républicain et contraire à nos principes laïques.
Je lance la pub. Ne bougez surtout pas. Restez avec nous. Les informés reviennent dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Bienvenue, si vous venez de nous retrouver les informés, vous le savez, la formule ne change pas. Analyser, commenter, décrypter l'actualité avec Karim Zeribi qui est avec nous. Et on le remercie infiniment de sa présence. Éditorialiste que je ne présente même plus donc auprès d'Hanouna, mais pas que, aussi de CNews. Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'IPSE, et Gamal Abina, commentateur de la vie politique. Messieurs, je me devais de vous redonner la parole. Jean-Claude Félix Tchikaya dans l'ordre, et Gamal Abina, concernant finalement, est-ce que le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres? Je pose la question.
Ne serait-ce que dans son projet, quand on revient au milieu du 20e siècle, ce n'est pas un parti comme les autres. Donc, dès qu'il y a un débat face à un dirigeant, voire à une représentante qui incarne cette dynastie idéologique, dogmatique, le débat ne peut pas être un débat comme les autres. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Bien sûr, le président, il fait montre de sa connaissance des dossiers. Mais face, il est obligé de mettre en exergue les inconséquences qui, en plus, venaient souligner le danger d'une extrême droite. Un parti antidémocratique. Qu'est-ce qu'elle nous raconte à la fin du débat, ce qu'avait dit Jordan Bardella quelques heures avant? Ils sont prêts, dans un pays pour la première fois dans le monde que nous sommes, 200 pays, à mettre en place une loi qui, quel que soit l'âge de la personne, parce que musulmane, la police peut lui arracher son voile. Dans un pays démocratique, liberté, égalité, fraternité.
C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron d'ailleurs.
Avec des heures sombres, Pétain, la colonisation, et on peut aller. Comment voulez-vous que ça soit un débat comme les autres? Ce n'est pas un parti comme les autres, ne serait-ce que le projet.
Avançons, messieurs.
En face, elle avait un président auquel on peut, ça a été dit, avoir des reproches, souligner ceci, cela, mais ça reste dans un cadre républicain, démocratique. Et on voit bien que, malheureusement, parce qu'on a une co-responsabilité, là je m'adresse à tous les citoyens, sans les fustiger et sans vouloir être donneur de leçons.
demander qu'on respecte un Front National, une extrême droite, au premier tour, au deuxième tour, et puis quoi encore? Est-ce qu'elle nous respecte? Est-ce qu'elle respecte les êtres humains que nous sommes? Est-ce qu'elle respecte les citoyens français que nous sommes? Est-ce qu'elle respecte les personnes étrangères de notre famille ou non? Est-ce qu'elle le respecte? Est-ce qu'elle ne veut pas changer la Constitution pour aller encore plus loin dans l'irrespect et dans la violence politique?
Absolument, mais merci de nous le rappeler. Gamal Abina,
Je vais être sympa avec Le Pen, 2 secondes pour être sympa. Ça
allez-y.
Macron, il a fait un coup bas sous la ceinture. Ce qui était attendu, c'est le coup du financement par les Russes. C'est un coup bas parce que c'est pas normal qu'un parti même aussi extrême que celui-ci ne puisse pas être financé en France, parce que ça donne l'impression que ce sont des victimes. Il a un peu participé, pas lui, mais le système a participé à lui donner une posture de victime. Et quand il tape dessus en disant vous avez été en Russie, vous êtes sous dépendance, il a raison, mais il s'oublie en l'occurrence qu'il reçoit les conseils d'un homme qui a été payé, semble-t-il, par Nicolas, donc Sarkozy, qui a été payé par Kadhafi, une force étrangère aussi, et qui avait un rapport de dépendance qui était assez inquiétant. Donc ça, c'est une chose pour mettre en place, et qu'elle n'a même pas su se défendre tellement elle est nulle en termes de rhétorique. Mais par contre, c'est vrai, elle est très faible intellectuellement, ça s'entend, je veux dire. Pas longtemps pour s'en rendre compte de cela, mais en revanche, il y a une chose qui pose problème avec ce débat, c'est qu'ils n'ont pas, les deux, répondu sur le fond. Ils parlent de dépenses, on n'a parlé que de dépenses, ils n'ont jamais parlé de recettes. On ne sait pas comment ils vont financer leur super plan. Et Mme Le Pen, qui est la spécialiste de la défense, passe son temps à dire je vais donner ceci, je vais donner cela, mais est incapable de chiffrer. Son programme, je l'ai vu, en 144 points divisé en plusieurs parties, c'est un programme identitaire, obsessionnel sur la question de l'immigration, de la sécurité, de la grandeur de la France et de tout un tas de baratins qui ne répondent pas aux attentes des Français, qui sont inquiets pour les questions économiques, parce que c'est ça qui inquiète les Français. Et pour finir, bon, je pense qu'on a à peu près le même âge autour de la table. Moi, j'ai connu les skinheads à Paris, j'ai connu Bad Skin, parce que j'étais juste à bord de Bagnolet. On se faisait ratonner, il fallait se défendre, il a fallu qu'on se fasse des bandes pour faire face à eux. On se faisait ratonner par eux, on était inquiétés par la police parce qu'on ne savait pas si c'était skin ou pas. Ça, c'est une époque qu'on a connue. Ça faisait suite au massacre, et là, c'est Marseille, des Algériens Marseille en 73, après la guerre, qui se faisaient tuer dans la rue, et il a fallu que le président algérien intervienne pour que ça s'arrête. Donc, ça vous donne à peu près une idée de ce que veut dire le Front National. C'est un parti d'extrême droite, même s'il s'en défend, avec des idées qui sont violentes et anti-immigration. C'est la première idée qu'ils ont toujours partagée depuis 50 ans. Pas un programme du Front National ne parle d'immigration, même à l'époque où nos parents étaient de gentils immigrés qui venaient travailler et détruire leur santé pour
avançons. Merci.
Pour conclure, c'est important de conclure.
Rapidement, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, les gens pensent voter Front National parce que ça a l'air d'être un parti naturellement sympathique et nationaliste. Ils se trompent. Le nationalisme français est un nationalisme d'exclusion, non pas de libération. On ne doit pas confondre les nationalismes du Sud et ceux d'Occident, malheureusement.
Messieurs, nous entendons, et merci de faire
et
ce rappel, effectivement.
Et qu'on ne tacte pas de passéiste ou d'anachronique, C'est bien eux, du milieu du 20e siècle, qui aujourd'hui parlent encore de grands remplacements. Même quand son père faisait 0,75.
Exactement.
C'était déjà le scandale de l'Assemblée nationale.
Absolument. Pas faux, c'est pas faux. Il y en a un qui a rassemblé 21,95. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Alors, effectivement, aujourd'hui, il a précisé qu'il briguerait le poste de Premier ministre s'il est élu. En tout cas, il invite tous les Français qu'ils l'ont élu, à aller se manifester sous la forme d'un vote, bien sûr, aux législatives. Et il se voit déjà Premier ministre, qui dit il demande clairement aux Français de l'élire Premier ministre aux législatives. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Zeribi?
J'ai envie de dire qu'on a la gauche la plus bête du monde dans ce pays. Quand on a la possibilité, en faisant l'union, d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle, donc on laisse tomber, j'allais dire, un peu les égos respectifs des uns et des autres qui décollent pas dans les sondages, pour aller donner le point et demi ou les 2 points qui feront la différence à l'arrivée. Ça n'a pas été le choix. Ce qu'a fait Taubira, effectivement. Mais d'autres auraient dû le faire. Et d'ailleurs, je pense que les électeurs ont été naturellement vers le vote utile, alors qu'habituellement le Parti socialiste, quand il était hégémonique et dominateur, donc c'est lui qui appelait toujours au vote utile derrière lui de toutes les forces politiques. Ils disent au vert, mais c'est pas la peine que vous êtes candidat, c'est pas la peine des candidats, soutenez-nous, il faut que la gauche soit au deuxième tour, puis on fera un gouvernement ensuite pluriel comme on a
ça,
eu
ça c'était avant.
Donc et là effectivement c'est ce qui aurait dû être fait derrière Jean-Luc Mélenchon, que l'on apprécie ou pas la personnalité du bonhomme, parce que lui aussi c'est vrai qu'il est arrogant, il est parfois insupportable, la République c'est moi. Enfin, il y a des épisodes quand même qui ont fait que il a pas été au niveau, mais néanmoins c'était le seul capable d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle. Derrière cette occasion manquée, Jean-Luc Mélenchon il va tenter un troisième tour aux législatives. Et dans ce troisième tour,
ça peut fonctionner.
Ça peut fonctionner. C'est compliqué. faut pas se le cacher. Il y a 106 circonscriptions sur lesquelles LFI, donc la France Insoumise, est arrivée en tête.
Oui.
106 circonscriptions. Il faut 290 donc membres à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité. Donc, on voit bien que le compte n'y est pas, qu'il en manque encore au bout. Mais peut-être qu'avec l'union derrière des candidats, la PS, la Écolo, la LFI, donc de toutes les forces de gauche, peut-être qu'avec la désagrégation de l'autre côté, la division de l'autre côté, parce qu'on voit que le vote LR va imploser donc en vol, certains vont rejoindre Macron et le courant d'Edouard Philippe, d'autres vont faire tomber les masques et rejoindre Zemmour donc plus vite que prévu. Il peut y avoir, par la division et par un concours de circonstances, une très forte présence à l'Assemblée nationale des forces de gauche si elles sont unies. Bon, tout ça effectivement est lié à des concours de circonstances, mais il faut jouer le coup. Et je pense qu'il a raison, Mélenchon. Il a raison, mais en plus, je veux dire, d'autant plus
qu'il a raison, d'autant plus qu'il est galvanisé.
C'est sa dernière bataille.
Absolument.
Donc il donne tout.
Donc il a raison de se dire qu'il peut se voir. On fait un peu de politique fiction. Premier ministre.
Il a raison de mettre tout le monde face à ses responsabilités. C'est la seule occasion aujourd'hui qu'il y a pour proposer une alternative dite de gauche à la tête du pays.
Jean-Claude Félicicaillat.
Oui. Il a raison de jouer ce coup, parce que le diagnostic fait par Macron et d'autres sur un nouveau monde, une nouvelle ère qui se met en place, et on voit bien que ce monde de son pays ne voit pas le monde de même manière. Et en France, qu'est-ce qui se passe? La gauche prise encore dans des convulsions d'individualisme et égo surdimensionné, fait des petits scores ici et là. Quelle est la différence entre les uns et les autres? Mettez-vous ensemble. Surtout que les électeurs, c'est pas un vote utile, c'est un vote d'intelligence politique démocratique.
C'est vrai.
Parce qu'ils ont bien vu qu'en France, c'était éclaté, que c'était donc des histoires d'égo surdimensionnées. À quoi on va avoir affaire? Après une tripartition du premier tour, on va avoir affaire à la création demandée par Maréchal Le Pen, par Zemmour et par Mélenchon, par deux plateformes. C'est-à-dire la plateforme des unions des droites, peut-être. La plateforme des unions des gauches, peut-être.
Ouais.
Et En Marche, qui malheureusement reste quand même un ovni, un parti pas assez boîte à idées, pas assez en branle, pas assez encore assez solide et ne se fait pas assez promouvoir, c'est-à-dire ne capte pas assez dans la société civile, ne capte pas assez dans les partis politiques pour ceux qui sont essoufflés dans ces partis où ils voient que c'est plus des boîtes à idées. Donc faut qu'ils incarnent absolument. On aura surtout sûrement une bataille tripartite, c'est-à-dire En Marche va rester une plateforme. Peut-être l'union des gauches.
C'est la droite républicaine aujourd'hui, Macron.
Voilà.
Faut le dire.
Voilà.
Il n'a plus rien de gauche.
Il n'a plus rien de gauche.
C'est la droite républicaine.
Absolument.
Il
n'y a plus rien de gauche, ça c'est sûr. Il a tenté quand même ce second tour de rattraper ce volet social.
C'est la sémantique, c'est de l'affichage, mais dans la politique menée, avec les nominations de ministres à des postes régaliens, c'est une politique de droite. Mais c'est pas un gros mot, d'être de droite, c'est pas insultant.
Heureusement.
On vient de parler de civilisation et d'identité. L'identité gaulliste, c'est pas faire une alliance, ou chiraquienne, c'est pas faire l'alliance avec le Front National, Maréchal ou Zemmour. Il a beau dire à chaque fin de phrase et à tous les coins de phrase de Gaulle.
On parle qui de Zemmour?
Oui, de Zemmour. Il est absolument pas l'incarnation du
gaullisme
ou d'une droite sociale.
On peut donner un exemple très concret pour Zemmour, parce que j'aime bien marrer, vu le côté light des idées de Zemmour, qui considère qu'Algérie est un mot qui est inventé par la France. Bon, déjà, il ne sait pas qu'un mot qui commence par AL, c'est un mot arabe, comme algèbre, comme alchimie, comme ça. Donc j'allais un peu de mal au niveau des idées, mais Zemmour, par exemple, il veut se réclamer d'un gaullisme. Alors que De Gaulle avait lutté contre ce qu'on appelle le statut personnel en Algérie. C'est quoi le statut personnel? C'est le fait de, pour être français, se retirer son nom et sa religion. C'est ça. Abandonner le statut personnel. Donc De Gaulle a lutté contre ça en 58 quand il arrive aux commandes. Un mois après, il fait une loi pour arrêter ça, pour abroger ça. Zemmour se réclame de ça. De Gaulle est l'ennemi politique de Le Pen. Le Pen voulait la peau de De Gaulle comme Jean de l'OSS. Donc c'est dire à quel point ils se détestaient.
Le Front National, c'était une attaque physique à De Gaulle.
Ils voulaient tuer, quoi. Mais c'était vraiment. Ils ont failli tuer au petit Clamart, ça en dit des choses. Mais quand on parle de la droite en France, c'est une chose. La droite est gaulliste pour la plupart. L'extrême droite n'est pas du tout, elle est anti-gaulliste, c'est vrai. Et Macron est un personnage de droite, il ne faut pas raconter l'histoire, parce que c'est son aile droite qui a fait la loi pendant 3 ans. Donc elle est devenue dure en plus, on voit toutes les dérives, bref. Mais pour dire par rapport à la question Mélenchon. Mélenchon a raison de jouer son bateau, et c'est vrai qu'il fait 106 circonscriptions.
Je vous interromps quelques secondes, je vous redonne la parole tout de suite après, parce que je suis contraint de lancer la pub. A tout de suite, ne bougez pas, Gamal promis bien sûr, tout de suite après, juste après la pub, vous aussi vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. A tout de suite, les informés reviennent.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Eh bien, c'est la dernière ligne droite des informés. Dernière ligne droite avec Karim Zeribi, avec Jean-Claude Filicicaya, mais également les informés, c'est avec Gamal Abina. Messieurs, je vous redonne la parole. D'abord, Gamal Abina, hein, chose promise, chose due. Concernant Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui se voit Premier ministre. Et on entamera ce troisième sujet qui concerne l'enjeu, les grands enjeux qui nous attendent sur, dans quelques jours d'ailleurs, pour le second tour. Gamal.
Oui, Karim disait tout à l'heure qu'on a la gauche la plus bête au monde, mais à l'époque, dans les années 90, c'était la droite qui était la plus bête. Hein. Donc chacun joue sa partition. Mélenchon joue une belle partition en l'occurrence parce qu'il a su faire amende honorable, il a su dire qu'il a fait des erreurs. C'est rare dans le monde politique qu'un homme dise ça, donc il était bien conseillé. Il s'est calmé sur le côté un peu violent et outrancier, mais surtout, il a un véritable boulevard devant lui s'il réussit à faire l'union de la gauche, parce que c'est quoi l'union de la gauche, comme Mitterrand en 72 avec son fameux programme commun, c'est de dire que l'EPS, qui est très implanté par contre, lui n'a pas été atomisé sur le plan régional, s'il lui redonne ses voix, parce que l'EPS est en difficulté, ils ont un trou monumental au niveau financier, ont besoin de Mélenchon pour apurer entre guillemets les dettes. Les Verts, c'est pareil, ils se sont plantés à moins de 5, ils ont besoin de Mélenchon, donc ils vont tous commencer un petit, je parle même pas des communistes, ils vont commencer à lui faire un petit peu la danse du ventre en espérant être ministrable, en espérant obtenir la majorité. Et s'ils ont la majorité, c'est vrai, là, quand on a la majorité, c'est cohabitation de fait.
C'est possible la majorité pour Mélenchon ?
C'est très possible parce que s'ils se mettent d'accord
vraiment
entre eux. Ah oui, c'est possible, ouais, parce qu'il a un vent.
Il est
monté en force.
Les moyens humains ?
Oui, bah largement. Il a
largement ? D'accord.
Oui, il a fait un travail. Franchement, il faut être honnête avec Mélenchon. Moi, je ne suis pas mélenchoniste du tout, donc j'en parle de façon très, très, très décomplexée. Mélenchon a fait un travail de fond qui a duré 5 ans de sape sur le terrain qui était visible partout. Avec cette appropriation de l'image, avec le multidiffusion et tout, enfin, c'est énorme ce qu'il a fait. Donc il a fait un travail aussi social. Il a remplacé littéralement la gauche. Et aujourd'hui, Mélenchon, qui est un ancien homme de gauche, à 35 ans en PS quand même, hein, connaît tout le monde à gauche, peut faire l'alliance avec lui et proposera des postes importants. Donc comme la gauche s'est morte aujourd'hui, elle a besoin d'une nouvelle gauche, une sorte de nouveau PS, comme à l'époque avec la CFIO qui est devenue PS, pour obtenir une victoire. Et la victoire significative, ce serait une cohabitation entre un Macron, qui est un produit qui a été fabriqué par la gauche, on sait, de François Hollande, donc une gauche un peu particulière, et Mélenchon qui serait beaucoup plus à gauche. Là, on arriverait en gros à un État qui serait beaucoup plus calme sur les questions d'identité, de tension sociale.
Mmh. Et c'est peu probable quand même.
Karim Zeribi.
Soyons objectifs. C'est peu probable de même si tu arrives en tête dans 106 circonscriptions, ça ne veut pas dire que tu es assuré d'avoir
106 députés. C'est ce que je vois aussi, mais bon.
Parce que c'est la figure de Mélenchon que les citoyens ont choisi. Donc là, en l'occurrence, des fois, parfois, il n'y a pas le relais potentiel capable de mener campagne, d'être charismatique aussi sur le terrain. Et puis après, il y a des ancrages sur les territoires, on le sait, les uns les autres. Tu peux avoir des territoires qui votent à gauche dans une présidentielle et qui vont voter à droite sur une législative.
Exactement.
C'est une réalité électorale. Il faut la regarder. Et puis 290 parlementaires, quand tu es en tête dans 106 circonscriptions, sans être certain de pouvoir sortir gagnant, ne serait-ce que des
sénateurs, faut les avoir.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est compliqué, franchement.
Gamal Abina.
Ils ont un Macron qui se maintenait globalement, mais qui avait tendance à reculer sur le plan local. C'est-à-dire que Macron, c'est pareil, c'est l'homme présidentiable. C'est comme Mélenchon, c'est deux grandes figures. En local, ils n'étaient pas très bons. Mélenchon a une vague ascendante. Et s'il fait l'alliance, il peut obtenir un résultat. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais il y a une possibilité, parce que Macron n'est pas très ancré finalement. Il a reculé en ancrage local.
Je vous rappelle qu'il a 11 députés. Donc à l'Assemblée nationale, alors qu'il a fait un score qui était tonitruant déjà en 2017. Donc on a vu que ça s'est pas transformé aux législatives. Si aujourd'hui il sort avec 50 à 60 parlementaires, c'est énorme déjà.
C'est énorme. C'est pour ça que je dis,
pèsera à l'Assemblée. Alors pour moi, Mélenchon sera un acteur avec son groupe incontournable de l'opposition. Ça c'est assuré. Pour qu'il ait la majorité, à mon avis, il faudrait qu'il s'en passe.
Jean-Claude Filicicaya.
Sauf que toute la classe politique est obligée de formuler un projet en termes de plateforme politique. Ouais. Parce qu'il y a un assèchement de la classe politique française. Tous sont obligés de se réinitialiser, de se mettre à jour, reconfiguration. Il y a très peu de députés actuellement de la France insoumise. Donc ça voudrait dire que pour qu'il soit Premier ministre, ça veut dire qu'il y a un raz-de-marée. Où est tout son potentiel, tout son potentiel député. Par quoi il peut être poussé? Parce qu'il domine. C'est-à-dire l'insuffisance du traitement de la question social, mais pas seulement depuis Macron, mais Hollande et autres. Sûr, on va revenir à la fracture sociale, donc ça précède Chirac, et on voit bien que même la montée de Le Pen, qui aujourd'hui
joue la tchée du Front National, ou elle est au plus proche de tous ceux qui ont des problématiques sociales et économiques. Et là on parle de pouvoir d'achat, mais c'est pas de pouvoir d'achat. Les Français ont besoin de pouvoir social, économique, pas seulement de pouvoir être consommateur et client, mais de pouvoir mettre de côté, de pouvoir se projeter, de pouvoir entreprendre, de pouvoir donner à ses enfants, être à l'aise. Attention, c'est vraiment le pouvoir d'achat. C'est un mot vraiment qui dépolitise la vie politique française. C'est pour cela qu'en dépolitisant la vie politique, elle se dépolitise, elle se banalise, elle devient Marine, donc une candidate comme les autres. Sauf que c'est l'extrême droite.
On peut avoir un niveau d'abstention qui repart à la hausse quand même.
Bah justement, c'est le troisième sujet.
Ne soyons pas dupes, parce que une fois, Zemmour a permis à des franges de la population qui étaient un peu endormies de se réveiller et d'aller voter,
justement,
parce qu'elles se sont senties humiliées et attaquées.
Gardez le micro, Karim Zeribi, parce que c'est le troisième sujet. Vous me permettez une belle transition, parce que c'est le troisième sujet. Quels sont les grands enjeux qui nous attendent sur ce second tour ? Vote, vote utile, abstention. Que faut-il faire ? Certains sont perdus. Faut dire la vérité, ils sont perdus. Mais surtout après le débat, évidemment, que...
Vous avez totalement raison, Adil. Je pense que les gens sont à la fois perdus et à la fois désenchantés. Donc, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient retrouver une forme d'espérance derrière la politique et le projet politique qui est porté par des femmes ou des hommes.
C'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont perdus.
Et cette espérance-là, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, on vote contre. On vote par défaut. On vote pour faire barrage. Et ça, depuis des années. Et depuis trop longtemps. Alors là, je le disais tout à l'heure, je pense que si on a eu une abstention qui s'est un peu affaiblie, notamment dans certains quartiers populaires, c'est parce qu'il y avait le candidat Zemmour. Et que les habitants voulaient lui donner une fessée. Et d'ailleurs, il a reçu 7%, la messe est dite. Celui qui mettait l'islam et les musulmans au centre de toutes les questions, de manière obsessionnelle, je veux dire pathologique, maladive, psychiatrique, ce gars-là a été balayé. 7%, voilà, on lui a dit, mais voilà, vous êtes pas au niveau. Derrière cette mobilisation et ce vote utile qui a bénéficié à Mélenchon, la question est de savoir, est-ce que les gens vont se déplacer d'abord pour le deuxième tour et ensuite pour les législatives? Alors pour le deuxième tour, il y a une caractéristique. Certes, on a deux candidats qui sont foncièrement opposés, on l'a suffisamment dit tout à l'heure, et le débat l'a démontré. Il y a une compétence d'un côté, une incompétence de l'autre. Donc un projet républicain, quoi qu'on veuille penser d'un côté, un projet anti-républicain de l'autre, ça c'est clair. Mais il y a quand même deux rejets dans cette offre politique. Il faut pas non plus le minimiser. Il y a un rejet de l'extrême droite et des idées nauséabondes de quantité républicaine. Et là, effectivement, on est tous d'accord pour dire que la mobilisation du premier tour face à Éric Zemmour participe de ce rejet-là. Et le rejet, il va se poursuivre sur Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont voté Macron sans être soutien de Macron, mais pour s'opposer à Marine Le Pen. Mais de l'autre côté, il y a quand même un rejet Macron. Il y a quand même un rejet. Alors peut-être plus de sa personnalité, de ce qu'il incarne, que de sa politique. Parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, j'ai rarement vu moi un personnage politique qui provoque autant de rejets alors qu'il est dans le champ républicain. On pourrait dire, je suis pas d'accord avec ses idées, pas d'accord avec son programme. Cette réforme est insupportable.
Presque limite, il y a une espèce de haine, quoi.
Mais dans le positionnement politique de Sarkozy et de Macron, Macron, on l'a dit tout à l'heure, est plutôt un centre droit, incarnant une droite républicaine qui est normalement modérée. Sarkozy était quelqu'un qui a voulu siphonner les voix d'extrême droite. Donc quelque part, il était allé chercher cette forme d'exaspération et de rejet. Emmanuel Macron, il faut forcer de constater qu'il y a énormément de rejets. Il y a plein de gens qui vont dire, moi, je suis contre Le Pen, mais je n'irai pas voter
Alors,
Macron. J'entends mon
on fait
de
quoi
moi.
Dimanche
des
on
gens
quoi
qui
dimanche
vont pas aller voter Macron.
On fait quoi
qui
dimanche, Karim Zeribi? On fait quoi dimanche prochain?
Moi, personnellement, si je dois à l'ancien appel, c'est l'appel à aller voter. Parce que je pense que c'est un droit et c'est un devoir. Donc on ne peut pas se priver d'user de ce droit et ce devoir. On existe en qualité de citoyen aussi par là, pas que par là, mais aussi par là. Donc il faut faire entendre sa voix, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est pas un chèque en blanc qui sera fait à Emmanuel Macron, parce que dans la vie politique, tout ne se résume pas à un vote au deuxième tour d'une présidentielle. Donc il y a derrière des mouvements qui peuvent être organisés, sociaux, de contestation, pour peu qu'on sombre pas dans la violence. Les manifestations sont autorisées, le pouvoir de grève est autorisé dans ce pays. Donc Macron saura quand même qu'à un moment donné, il y a quand même une vigilance citoyenne, donc, et que ce vote
c'est bien de
n'est
le
pas une garantie
J'espère
de pouvoir
que le message
faire tout et n'importe quoi.
Sera entendu.
Donc il faut pas indiquer et penser que le vote contre Marine Le Pen, et donc en l'occurrence pour Emmanuel Macron dimanche, est un vote qui donne un chèque en blanc à Emmanuel Macron, qui est un vote de soutien à part entière à Emmanuel Macron. C'est un vote pour les valeurs républicaines au sens large, et ensuite, vigilance citoyenne derrière sur les politiques qui seront menées.
Exact. Oui. Bien dit. J'ai rien à dire. Oui. Jean-Claude Félix, rapidement, parce que je dois rendre l'antenne, ça y est.
D'accord. Faut pas oublier que le succès du score de Mélenchon, c'est vraiment un succès politique. Sur son projet, sur la question ouais. sociale.
Jean-Claude Félix, pardon, mais qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain?
Il faut aller voter.
Qu'est-ce qu'on fait? Quel est l'enjeu du dimanche prochain?
Il faut aller voter, et notamment Macron, pour réunir le plus de voix contre Le Pen, pour la bouter de ce jeu républicain où, malheureusement, le Front National et l'extrême droite est encore au deuxième tour, et continuer la lutte pour que tout ce qui, malheureusement, assèche la vie sociale et économique et autres, est complètement à remettre au centre du programme de Macron. Je pense qu'il est obligé de former un gouvernement de coalition fédéraliste, d'union nationale, parce que je ne pense pas que chez En Marche, il y ait une besace en termes de... Je ne veux pas être offensant, mais il n'y a pas qui soit représentatif... De la désespérance et aussi de l'espérance qui est toujours là, hein, tant que notre cœur bat, on veut autre chose. Il est obligé de passer pour donner un signe par un gouvernement d'union nationale et quoi.
Gamal Abina, il nous reste quelques secondes.
J'ai envie de dire rapidement, il faut voter effectivement dimanche, ça ne se pose pas de question parce que le Front National, il faut le liquider. Ensuite, il faut se rappeler, Zemmour tout à l'heure, on en a parlé, il a fait 7%, il a quand même éclaté tous les partis de la classe politique classique. Il a fait 7%, il est remboursé, il est dans la course et il renforce l'extrême droite. Donc c'est inquiétant. Zemmour, Dupont-Aignan, bref, toute cette.
Qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain?
On vote, mais surtout de rappeler une chose importante, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un chèque en blanc qu'on fait à Macron, qu'il y aura une troisième, de toute façon, il y aura un vote très fort aux législatives. Peut-être pas en participation, mais au moins un vote qui va être un vote de contestation certainement. Et surtout de rappeler que la classe politique française a un problème aujourd'hui, je tiens à le souligner, parce que nous, tous étrangers d'origine étrangère ici, il n'y a pas un candidat qui est aligné, à part Zemmour l'Algérien qui s'est oublié, que des Européens.
Dans la classe pas l'Algérie, s'il te plaît, les Algériens.
Il a une tête d'Algérie. Zemmour, l'Algérien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la classe politique, que ce soit, et je reproche à Mélenchon, pas un seul étranger dans son parti. Je veux dire, visible, là, je parle
même
pas
au niveau de la société.
Là, vous parlez de représentativité.
Représentativité.
C'est ça, j'ai compris. Je dois rendre l'antenne.
On a reculé sur cette question majeure.
On a perdu 20 ans, là. Messieurs, je suis. Je rends l'antenne, c'est aussi ça. Merci à Gamal Abina. Merci à Karim Zeribi. Vous reviendrez?
À très vite.
Promis?
Sans problème.
Sans problème. Jean-Claude Fixicaya, au plaisir.
Au plaisir.
Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Et comme vous dites. Je vous rappelle, allez voter. Vote, mon pomme, vote, mon pote, exprime ton opinion. Bien. Je leur dis ça, tout le temps, en permanence. Eh bien, rendez-vous à lundi prochain. Prenez soin de vous. On ne lâche rien. Ciao.